Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, avant de retrouver nos débriefeurs, bonsoir Étienne Brack.
Bonsoir Frédéric.
Alors Étienne, bon, hier ça n'a échappé à personne, premier tour des élections législatives. Et la question que l'on se pose ce soir, c'est comment ont réagi les marchés aujourd'hui?
Eh bien écoutez, vous avez une réaction plutôt positive du CAC 40. Il a gagné plus de 2% en séance, avant finalement de gagner plus d'1% à la clôture, légèrement sous les 7600 points à 7561 points, avec d'une certaine façon le marché qui préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Souvenez-vous, la semaine dernière, vous aviez des sondages qui mettaient le Rassemblement National à 37-38%. Finalement, les résultats officiels du ministère de l'Intérieur donnent 33% hier soir au premier tour, quasiment 28% pour le nouveau Front Populaire. Et la crainte depuis plusieurs semaines, c'était que l'un ou l'autre arrive à Matignon. Finalement, la thèse principale aujourd'hui, c'est qu'aucune majorité absolue ne sera obtenue dimanche soir. Donc suite à cela, vous avez un marché qui est un petit peu soulagé. À noter que sur le front de l'obligataire, vous savez, la dette, la référence, le marché à 10 ans, eh bien, vous avez une semaine qui sera très importante puisque la France va émettre entre 8 et 10 milliards jeudi. Donc ça sera un moment vraiment test. En attendant, les valeurs bancaires rebondissent ce soir avec des gains de 2 à même quasiment 4% pour Société Générale. Attention, néanmoins, la situation reste très fragile. Quand vous regardez les différents économistes, leurs notes depuis ce matin invitent à la prudence. À l'exemple de Arnaud Marès, le chef économiste Europe de Citi, qui dans sa note, je cite, « Dans tous les cas, la France restera probablement politiquement instable après les élections, avec une visibilité politique très limitée, une perte d'influence substantielle en Europe à un moment critique pour le continent. » Et ce point de vue, il est partagé par aujourd'hui toutes les banques d'affaires, par toutes les grandes sociétés, puisque depuis plus de 15 jours, les sociétés aujourd'hui mettent tous leurs grands projets en pause. Et à l'approche de l'été, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont les reprendre.
Voilà, et comme on le dit souvent ici sur ce plateau, on parle des marchés, on ne parle pas du sentiment, de l'ambiance dans les entreprises ou de l'économie. Mais enfin, merci Étienne Brack de nous avoir apporté toutes ces précisions sur l'ambiance sur les marchés après ce premier tour des élections législatives françaises. Je rappelle, le deuxième tour aura lieu dimanche prochain, si ça vous avez échappé. Allez, on poursuit notre débrief avec Damien Douani, responsable d'innovation de l'école narrative et fondateur du cabinet de conseil Lab36, Hugo Weber, directeur des affaires publiques de Miracle, et Alain Goudet, directeur général adjoint de Neoma Business School. Hugo, je vais démarrer avec toi pour ce sujet. Alors, on vient de parler à l'instant de l'impact, quel impact pouvait avoir sur les marchés ce premier tour des législatives. Et tu l'as dit, mais nous, Miracle, entreprise bien connue, licorne, c'est combien de personnes aujourd'hui?
On est un peu plus de 750.
Voilà, on est en train d'aller quand même vers la belle ETI. Et que ce soit chez Miracle ou dans les autres entreprises de la French Tech, on s'interroge quand même beaucoup sur la suite, quoi.
C'est plus qu'une interrogation.
Ouais.
On
s'inquiète.
Peur de ce qui va se passer. La réalité, c'est que les programmes à la fois d'extrême gauche et d'extrême droite sont des programmes qui sont mortifères pour l'écosystème technologique en France. Essentiellement pour trois raisons, et qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et pas forcément cumulables à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Mais d'abord, le sujet de l'immigration. Très clairement, tous les programmes qui visent finalement à remettre des frontières vont contraindre le recrutement des talents étrangers dans nos entreprises de la tech. Et c'est un vrai sujet, on a besoin d'un certain nombre de talents étrangers qui viennent renforcer les compétences qu'on peut avoir dans nos entreprises. Je pense aux développeurs qui peuvent être marocains, tunisiens, indiens, qui viennent dans nos entreprises de la tech française aider à développer des produits en France, des product marketers. Enfin, il y a plein de métiers finalement où on va chercher des compétences en dehors de France.
Souvent, on a parlé tout à l'heure pour les Français, on a eu des expériences à l'étranger, donc voilà, arrivent avec leur richesse culturelle et leur richesse aussi professionnelle.
Exactement. Le deuxième sujet, c'est celui du contrôle des investissements étrangers. Dans certains programmes des extrêmes, vous retrouvez un strict contrôle des investissements étrangers dans les start-up françaises. Aujourd'hui, et on en parlait tout à l'heure, de la difficulté des entreprises françaises à être concurrentielles à l'échelle mondiale, ça vient aussi d'un sujet de financement. Mmh. Et je ne connais pas un seul financeur qui ne se poserait pas la question d'investir dans une entreprise française, ou qui se poserait la question d'investir dans les entreprises françaises, s'il y a un vrai contrôle de la part de l'État sur un investissement étranger. Le président Macron a quand même mis énormément de choses en avant. Mm-hmm. Je pense aux événements comme Choose France qui ont réellement placé la France sur la carte de la tech. Et enfin, le dernier sujet, c'est le sujet de l'hébergement des données en France. Dans certains des programmes, encore une fois, des extrêmes, vous retrouvez la très forte volonté finalement de stocker les données des Français et des entreprises françaises sur du cloud français. Nous, on est une entreprise internationale chez Miracle, on sert des clients dans 40 pays, on a des bureaux dans une douzaine de pays. Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait aller contraindre nos clients aux États-Unis ou en Australie à aller héberger ces données sur du cloud français. Mm-hmm. Bon, bah ça nous semble un peu compliqué.
Oui, hein. On voit, et ceux qui le font en général s'appellent la Chine et la Russie, hein. Pour rappel. Donc oui, il y a quand même cette inquiétude, surtout que alors on voit ces idées, mais en plus faut aller gratter un peu pour aller chercher toutes ces lignes de programme hein, autour de la tech. Alain, toi, oui, il y a une inquiétude forcément. On reste vraiment contenu sur notre univers de la tech et de l'économie.
Non, mais je crois que Hugo a effectivement bien énoncé l'ensemble des inquiétudes. C'est une inquiétude qui est partagée aussi dans le secteur de l'enseignement supérieur. L'ensemble aujourd'hui du secteur a d'ailleurs publié un communiqué de presse pour faire part de ses inquiétudes autour notamment des problématiques de pouvoir attirer des étudiants internationaux, attirer des professeurs internationaux. Ça fait partie effectivement aujourd'hui pleinement de notre activité, de la richesse finalement qu'on propose à l'ensemble de nos étudiants. Et c'est vrai que bon bah voilà, nous notre métier quelque part c'est de former à l'esprit critique. On est un peu les garants quelque part de l'esprit des Lumières, la philosophie des Lumières. Bon voilà, moi c'est une mission à laquelle je crois pleinement. Et oui, des inquiétudes aujourd'hui sont légitimement exprimé.
Je pense que c'est dans les deux sens. C'est attirer des talents, mais c'est aussi empêcher nos talents. On parlait de nos talents français de Mistral. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui ces entreprises, si ça se passe mal, de se dire on va s'installer pas très loin en Angleterre, en Belgique ou dans le sud ou en Allemagne, pourquoi pas, et puis même aller carrément plus loin et repartir aux États-Unis. Il y a ça aussi.
C'est un constat. Hein, Hugo le disait. Aujourd'hui, la France était clairement dans une position de challenger, notamment l'Angleterre. Au regard des investissements avec des mouvements très nets hein, de la place de Londres vers la place de Paris. Bon, aujourd'hui, je crois que l'ensemble du secteur est en plein attentisme pour savoir un petit peu ce qui va se passer dans notre pays.
Hugo. Et si je peux peut-être rebondir sur la citation qui était projetée un peu plus tôt de l'analyse de Citi qui parlait de la place de la France et finalement de son influence dans le monde économique, ça joue aussi sur l'influence dans le monde tech. Et aujourd'hui, on sait qu'on est un peu à un moment charnière d'un changement de civilisation avec l'IA générative. Oui. Si on n'est pas capable d'attirer des capitaux, d'attirer des talents, d'attirer des nouvelles technologies dans notre pays, bah ça va aussi être vraiment plus compliqué.
Et surtout que je pense que tu parlais de Choose France tout à l'heure, je trouve que le Choose France de cette année, moi ce qui m'a marqué, c'est qu'à la limite on parle plus de French Tech, on parle de la tech en France, voilà, ça fait partie, et on voit beaucoup d'étrangers qui ont été, d'ailleurs certains qui sont venus à Vivatech aussi quelques jours plus tard, ont été surpris par cette vivacité d'IMX, ceux qui ne connaissaient pas bien, qui ne s'y intéressaient pas, et de montrer oui, c'est pas juste quelques startups qui vont devenir des licornes, et puis quelques grandes sociétés de luxe, et puis un grand pétrolier, et puis voilà, c'est ça la France. Dans la France aujourd'hui, c'est un secteur tech qui tient. Il y a des Miracle, il y a des Mistral, il y a des entreprises beaucoup plus importantes et même les LVMH, les Safran, tout ça, les Thales développent énormément de technologies. Damien.
La question qu'on peut se poser, quelle que soit l'issue du vote, c'est aussi la question de la zone de turbulence qu'il va y avoir. Et l'économie n'aime pas les turbulences, n'aime pas le doute, n'aime pas le manque de confiance. Donc très clairement, j'ai pas de boule de cristal pour voir ce que ça peut donner, mais l'histoire a montré des fois qu'à chaque fois qu'il y a des zones de turbulence, dans des marchés comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, il va y avoir des fuites de talents ou même des capitaux qui vont dire on vient pas, on n'a pas envie d'être associé à ça.
Donc développement, moins de recrutement, enfin voilà.
Voilà, donc il va implicitement y avoir une mécanique qui va se créer de certainement d'appauvrissement de l'écosystème. C'est réellement un vrai risque.
Oui, donc attention, voilà, c'est on voulait un peu. C'est Hugo qui nous dit, on en parle beaucoup chez nous et avec d'autres entreprises, mais c'est vrai qu'on le voit hein, dans le monde de l'enseignement, dans le monde du conseil, dans les médias, enfin tout le monde s'inquiète de cette tech qui est en train de, ça y est, de surgir. Hein, et il fallait pas voir, enfin il ne faut pas voir non plus. Alors on aime bien nous parler des licornes, mais c'est pas juste ce phénomène des licornes, c'est vraiment, on fait de la transformation chez Schneider Electric, on fait de la transformation à la SNCF, hein, voilà, le numérique est en train d'embarquer tout le monde, et pas seulement quelques entreprises où les dirigeants veulent à tout prix devenir millionnaires.
Quoi. Enfin, je pense que tu as raison d'insister là-dessus, Fred, parce que c'est vraiment l'un des sujets, c'est pas la tech pour la tech, l'écosystème parisien. Aujourd'hui, ceux qui bénéficient de tous les emplois directs et indirects qui sont créés par l'écosystème tech, c'est partout en France. Tu parlais de Choose France, Microsoft a annoncé la création d'un data center en Alsace, il se trouve que je viens d'Alsace. Oui. Bah, quand on regarde, finalement, c'est une région qui a aussi été par moments un peu...
Sinistrée, oui.
Non, pas, je dirais pas sinistrée, mais un peu délaissée aussi par ses investissements étrangers. C'est vrai que l'axe rhénan, c'était beaucoup de la pharma, et de voir des entreprises de la tech s'implanter en Alsace, créer de l'emploi en Alsace, bah, c'est aussi de l'emploi local, durable, pour...
Oui, puis l'image en plus, se dire, tiens, pourquoi pas, ça attire d'autres à venir dans le coin. Voilà, ben écoutez, on verra la suite en tout cas, mais voilà, cette inquiétude est vraiment forte et on voulait apporter ces quelques témoignages ce soir. Autre sujet, partenariat imminent entre Apple et Google Gemini, Gemini. Alors, on s'en doute un peu, on voit que toutes les entreprises ouvrent, ne partent jamais, ne s'embarquent, les entreprises utilisatrices ne s'embarquent jamais vraiment avec un seul LLM, avec un seul modèle. On veut de l'open source, on veut de l'open AI, on veut même certains avec du GPU NVIDIA, puis parfois non. Donc, Apple, il est comme les autres, il s'ouvre à tout le monde, Damien.
Oui, en plus, ça a été annoncé lors de la grande conférence WWDC, lorsqu'ils ont présenté Apple Intelligence, où ils ont dit, on va laisser là aujourd'hui, on fait appel à ChatGPT si besoin pour les choses un peu plus perfectionnées dont aurait besoin Siri, mais on laisse la porte ouverte à d'autres acteurs. Donc, c'est assez malin, parce que Apple fonctionne toujours dans cette logique d'écosystème, de walled garden. On est chez nous, donc vous êtes les bienvenus, mais à nos règles. Donc on commence par ChatGPT parce que c'est le plus connu, parce que c'est peut-être celui qui a été le plus généreux, que sais-je. Dans ce cas de figure, c'était malin.
Si on met un petit pic à Microsoft, c'est pas plus
mal. Voilà, bon. D'ailleurs, l'annonce de Gemini, c'est très amusant, parce que dans les rumeurs qui précédaient la WWDC, c'est d'ailleurs Gemini qui est d'ailleurs annoncé comme étant l'acteur avec qui ils avaient fait un partenariat.
Ce qui étonnait un peu moins tout le monde, genre, mais de toute façon, Google et Apple, ils sont déjà très proches, puisque le moteur de recherche dans l'iOS, c'est le moteur.
Donc c'est absolument pas surprenant. Ce qui est encore moins surprenant, c'est qu'Apple a dit qu'il ne voulait pas du moteur de Meta, parce que bon, tu comprends, il est moins perfectionné. On sait qu'Apple et Facebook et Meta s'adorent, donc preuve supplémentaire que Tim et Mark n'ont toujours pas enterré l'âge de guerre. Mais dans tous les cas de figure, c'est assez malin, parce que finalement il y a un péage Apple à chaque fois, et les acteurs doivent se mettre dans le moule de l'expérience utilisateur. Je trouve vraiment que c'est bien pensé.
Et puis je pense qu'il y a autre chose aussi. Bon, c'est on peut pas être avec un seul modèle aujourd'hui, il faut avoir une... Et puis, en termes d'investissement, on ne peut pas parier que sur un, on est obligé d'y aller à plusieurs. Alain,
C'est assez marrant de voir qu'Apple finalement applique les recommandations de l'autorité de la concurrence, c'est-à-dire pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Mais à son avantage.
Il y a un rebranding qui est colossal, Apple Intelligence, AI quoi. Donc en fait, on ne va pas acheter de l'artificial intelligence, on va acheter de l'Apple Intelligence. Et du coup, après, peu importe la manière dont ça marche, s'il faut aller piocher un peu dans le modèle de Gemini, dans le modèle de ChatGPT,
on fera du modèle de licence
ou dans celui de Claude chez Anthropic. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que en parallèle, Apple mène aussi son petit bout de chemin, notamment si on s'intéresse au small language model, c'est-à-dire comment embarquer finalement de l'IA générative directement dans le device,
dans le Mac ou dans
pour
le
profiter dans à plein tablette, finalement des puces qui sont déjà installées progressivement depuis plusieurs générations de matériel. Voilà, on voit que l'entreprise se cherche toujours. Elle a fait un grand pas en annonçant Apple Intelligence. Elle continue sa stratégie effectivement de diversification pour quelque part aller chercher le meilleur modèle pour la meilleure opération, le tout de manière très dynamique. Et le moment où elle sera prête, elle pourra aussi dire finalement le Apple Intelligence Model qu'on a fait maison est peut-être meilleur.
Il marche aussi. Hugo,
c'était très marrant le terme que tu utilisais d'ouvrir les portes de l'écosystème, et en même temps ils en ferment d'autres, en tout cas ils n'ouvrent pas d'autres portes, et celle de Meta notamment. Et je pense que tu mettais aussi le point sur quelque chose qui est très très important, c'est les cas d'usage qui vont être utilisés, et à chaque cas d'usage il y a un modèle de langage qui peut être différent. Donc cette approche finalement non exclusive avec des modèles de langage, elle est assez fondamentale aujourd'hui dans toutes les industries, que ce soit des téléphones avec, avec Apple, mais aussi dans le software. Chez nous, chez Miracle, on va utiliser du OpenAI, on va utiliser du Mistral 7B, et on a une approche qui est à la fois non exclusive et qui va en fait chercher le bon modèle pour le bon cas d'usage.
Et puis c'est une façon aussi, Miracle en est un exemple, Hugo, tu le dis, d'être toujours dans la course, quoi, de pas se dire, si on développe son propre modèle, vu les milliards que mettent les autres, tourner en rond un peu avec son petit modèle. Là au moins, il y a des contrats commerciaux, alors ça coûte de l'argent, certes, mais au moins on est toujours dans le up-to-date, quoi.
Après, il y a une question derrière, c'est le modèle qu'ils développent. Si on prend un fait en parallèle avec ce qu'ils font déjà de par ailleurs, le modèle d'Apple, c'est d'être dans un écosystème, d'avoir des gens extrêmement, on va dire, fiables au sens qui gardent, qui restent dans l'écosystème de la marque, et donc ils sont un public captif. Et donc ce public captif, qui est plutôt CSP+, très souvent, quand on veut y accéder, l'Apple fait le monnaie. L'exemple typique, c'est le moteur de recherche Google, par défaut dans Safari, qui aime 20 milliards de dollars. Pour être présent comme moteur par défaut. Donc pourquoi ne pas imaginer que demain, à l'instar, cependant on peut changer le moteur de recherche dans Safari. Donc pourquoi ne pas imaginer demain, à l'instar de cette mécanique-là, de dire il y en a un qui va payer plus cher, donc Gemini, ChatGPT, ou qui voudra pour être le moteur par défaut qui va suppléer Apple Intelligence, mais tu pourras choisir un autre modèle si tu as envie, peut-être avec un abonnement, on va savoir.
Justement,
je vois venir le modèle derrière, et je pense qu'il y a un deuxième effet qui se coule, qui va arriver derrière.
Justement, tiens, je te laisse le micro. Un abonnement pour utiliser Apple Intelligence. Alors c'est vrai qu'Apple Intelligence fait couler beaucoup d'encre, notamment, tiens, ils ont dit, finalement en Europe, tout n'est pas prêt, on ne le rendra pas disponible en Europe, il est disponible qu'en langue anglaise, et puis peut-être que ça les arrange aussi rester dans un périmètre américain pour l'instant, et puis même dans un périmètre plus restreint parce qu'ils ne sont pas tout à fait prêts, mais quand même, cette sorte d'abonnement là, comment tu analyses ça, Damien?
Bon, déjà, rien n'est jamais gratuit chez Apple. Donc, par conséquent, il y a un moment où ils vont monnayer. Là, aujourd'hui, quand ils ont présenté Apple Intelligence, ils n'ont pas parlé du coût que cela pouvait avoir de faire des interactions avec ChatGPT, par exemple, quand on veut sortir de la sphère Apple Intelligence. Donc, dans l'immédiat, on se dit, on a l'impression que c'est gratuit, ou tout au moins que c'est financé pour partie, peut-être par la marque, pour habituer les utilisateurs. Mais il y a un moment où on va passer à la caisse. Donc, très clairement, il va certainement y avoir un modèle comme ils le font aujourd'hui, un Apple One, ou bien des services en plus, le iCloud Plus, par exemple, qui permet d'accéder à d'autres services additionnels, en plus d'avoir du cloud en plus. On va, par exemple,
je veux améliorer mes photos, ce sera un service en plus, par exemple.
Peut-être, ou ça peut être tout simplement, tu vois, par exemple, je prends le cas de iCloud, c'est assez malin parce que quand tu passes dans un forfait supérieur, il te dit en plus il y a une sorte de VPN maison qui est fournie d'office, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête, ça fonctionne et puis voilà. Donc c'est toujours pareil, ça fonctionne et puis voilà, qui est assez malin, qui fait que tu passes à la caisse, tu dis parce que ça marche bien. Donc il risque d'y avoir peut-être des limitations, mais qui fonctionneront très bien en modèle gratuit, qui feront que si, je dis n'importe quoi, on désire avoir par défaut du ChatGPT qui ferait tourner par exemple sur Siri sans avoir besoin de passer par la pile à Apple Intelligence, peut-être que pour certaines fonctions, il faudra passer par cet abonnement, mais ça marchera bien sans. Et c'est là où ils sont très 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 bons. Donc ce serait pas étonnant qu'on passe par un abonnement à un moment, mais là où ils sont bons, c'est qu'ils le font de manière très subtile et ça fonctionne très bien et t'as envie de passer à la caisse.
Là je trouve que c'est très clair, parce qu'on était avant la WWDC, on était en train de dire mais que fait Apple dans l'IA, et finalement là on a l'impression que finalement oui, ils se débrouillent. Alors c'est peut-être pas forcément, on le disait à l'instant, leur IA en propre, ils ont peut-être beaucoup de retard par rapport aux autres, mais mine de rien ils sont vus comme ceux qui font avancer avec leur écosystème.
Mais c'est leur stratégie habituelle. Apple est davantage un excellent intégrateur de technologies existantes plutôt qu'un réel créateur de nouvelles technologies, et si on regarde l'Apple Vision Pro, c'est exactement ça. Apple Intelligence prend exactement le même chemin, et là où l'histoire de l'abonnement est extrêmement malin, c'est que finalement pour le moment ils ont en main toutes les cartes, c'est-à-dire qu'ils pourront choisir leur stratégie en fonction de là où ils en sont réellement le moment venu d'accès auprès de leur base d'utilisateurs, parce que de deux choses l'une: soit effectivement leur modèle est meilleur et on payera pour accéder au modèle Apple avec la garantie du respect des données, etc. soit finalement leur modèle n'est pas tellement meilleur et quelque part on payera pour aller chercher à la volée le meilleur modèle qui va accomplir telle ou telle tâche, et eux vont dire c'est ça Apple Intelligence, c'est pas le modèle d'IA générative utilisée, c'est la couche intermédiaire qui va à la fois emmener le contexte de l'utilisateur, les données de l'utilisateur de manière sécurisée vers le modèle le plus efficace.
Oui, mon iPhone est totalement transparente et on n'a pas besoin de choisir.
Et surtout, on choisit rien.
C'est ça. Mon iPhone est super et puis on regarde pas tous les applications qui tournent.
Ouais. Exactement.
Voilà, mon application mobile elle tourne bien, avec mon iPhone.
Et si ça se trouve, ça sera une composante de différents modèles disponibles sur la place de marché des modèles.
Ouais. Moi, j'ai juste un tout petit pas de côté à faire, c'est celui de finalement des données, des modèles qui vont alimenter l'IA d'Apple. A priori, de ce qu'on entend, ça va quand même être des modèles qui sont assez anglo-saxons. Il faut aussi se poser la question de, dans cette non-exclusivité que propose Apple, l'intégration de modèles européens, asiatiques, qui vont permettre finalement une pluralité aussi d'une vision du monde qui n'est pas forcément que celle de la tech américaine.
On l'a vu dans un autre domaine avec Google Traduction, qui a annoncé la semaine dernière plus de 100 langages en plus. plus. Alors voilà, des langages en breton, occitan pour parler de la France, mais ça va beaucoup plus loin. Des langages en Afrique qui sont parlés par des dizaines de millions de personnes, mais voilà, qui n'étaient pas dans Google Traduction. Donc on voit cette ouverture à la fois côté culturel, voilà, des langues qui pourraient se perdre, mais aussi beaucoup commercial, en se disant tiens, là, et je pensais quand tu parlais des langues asiatiques, le cantonais, là, qu'ils ont rajouté aussi. Un tout dernier sujet avant de faire une courte pause, et on se retrouvera pour la fin de ce débrief, c'est les, je sais pas si vous avez vu ça, cette IA qui va commenter les JO de Paris 2024. Donc, j'ai trouvé l'idée assez originale. Enfin, c'est Léa Benaïm qui avait repéré ça. Et en plus, la voix, c'est celle d'un commentateur célèbre des JO. Alors, moi, j'avais déjà vu ça il y a quelques années sur Wimbledon où c'était une IA qui allait prendre des images des courses annexes et qui faisait des petits résumés. Voilà, on disait bah, tiens, je voudrais voir, je suis tel joueur, il a joué sur le cours 19. Et bien, une IA avait récupéré les meilleurs moments. Et alors, je sais plus s'il y avait les commentaires, mais en tout cas, l'IA était présente, Damien.
Oui, alors là, la particularité, c'est que donc, c'est Al Michaels qu'on voit à l'écran qui est le commentateur hein, de NBC. Et là, l'idée finalement, c'est d'avoir une sorte de résumé sur mesure au sens où il va nous appeler par notre petit prénom. Au début, on lui dit je m'appelle Damien, et on dit alors Damien, ce soir le résumé rien que pour toi, tu aimes beaucoup la natation, et bien regarde, on a un truc pour toi. Et donc c'est assez malin, il va y avoir cette côté. Alors c'est ils ont bien sûr, ils ont calqué sa voix, donc ils ont pris sa voix, ils l'ont mappé pour faire en sorte que ce soit sa voix reconstituée par l'IA qui commente, et donc des petits résumés. Moi ça me fait penser, je sais pas si
il a accepté, hein,
oui, c'est sur acceptation, mais sur du commentateur Johnson, star de NBC. Ça m'a fait penser à deux choses. La première, c'est en Corée du Sud, il y a depuis plusieurs années une animatrice qui est un peu la présentatrice du journal du JT, on va voilà. dire, qui est là-bas star, qui a accepté d'être doublée par un avatar. L'idée étant qu'elle continue à présenter des journaux, mais quand c'est 2h du matin, qu'il y a de la breaking news. Donc autrement dit, voilà, on ne va pas venir la chercher forcément au saut du lit, et donc on peut continuer à traiter ça. Deuxième élément auquel ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez cette application qui s'appelle Juice, comme du jus, qui a été montée par Raphaël Adjian, ceux qui se rappellent le Navastag, et qui est en fait pareil, le même principe, c'est ma radio sur mesure, je dis ce que j'aime et je vais avoir des voix qui vont me dire bonjour Damien, voici ton résumé d'actualité et les sujets que tu aimes, et boum, j'ai un résumé qui va piocher dans de l'actualité. Ça me fait vraiment penser à tout ça, je trouve ça assez enthousiasmant.
Alain ?
NBC parie clairement sur le streaming autour des JO et envisager, je crois, de l'ordre de 7 millions de versions personnalisées des contenus, ce qui est colossal. On voit bien là la puissance de l'IA générative, notamment, qui a été complètement compris par la chaîne de télé pour hyper personnaliser des contenus, puisque finalement, ils se transforment en hub, ils vont capter des images, les retransformer à la volée, commenter, personnaliser et redistribuer tout ça.
Et l'utilisateur en streaming sur leur plateforme.
Et l'utilisateur sera ravi, puisqu'effectivement, on s'adressera à lui de manière spécifique.
Et en plus, l'expert, lui, il sera déjà allé voir les épreuves, et celui qui s'y intéresse, il veut suivre son athlète français, sans être vraiment un fan, mais voilà, il pourra suivre tout ça, Hugo.
Moi, j'ai un avis qui est, pour le coup, un peu différent. Génial. Pour deux raisons. La première, les JO, c'est aussi...
tes billets d'entrée et tu iras à toutes les épreuves.
j'aimerais bien. Je fais un appel à ceux qui ont des billets, n'hésitez pas. Au-delà de ça, l'esprit des JO, c'est aussi très fédérateur, et je trouve que un résumé qui est personnalisé, très verticalisé, ça devient une bulle informationnelle dans laquelle on reste en fonction de ses préférences.
Il n'y a pas le côté social.
Et malheureusement, on ne voit pas tout ce qui se passe à côté, et on peut se retrouver une passion pour le hockey sur le gazon parce qu'on a eu le petit bout de séquence sur le hockey sur le gazon qui était génial. Donc, je trouve que ça prive un peu aussi de l'ouverture d'esprit des JO. Et le deuxième point qui est peut-être un peu plus trivial, je suis désolé, mais moi les JO, c'est les souvenirs des JO que je regardais. C'était ceux que je regardais avec mon papa. Nelson Montfort, l'émotion qu'il fait passer. Si l'IA de Al Michaels arrive à refaire exactement la même émotion, why not? Mais je pense qu'on en est encore loin aujourd'hui.
Hugo, pour aller dans ton sens, il y a deux choses. Un, on ne sait pas qui va écrire les textes derrière. Parce que, quand tu commandes une vidéo, est-ce que tu vas décrire ce que tu vois, et donc c'est très flat? Ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va aller effectivement plus
la vidéo description.
Voilà, donc c'est ça la première question, c'est ce que ça va donner de ce point de vue-là. J'ai pas la réponse. J'ai cherché, j'ai pas trouvé la réponse. Deuxième élément, t'as raison, mais ce que tu pointes du doigt, c'est le direct. Là, finalement, on est sur du condensé. Résume-moi le match ou résume-moi les trucs de la journée. Le direct restera toujours le direct, à mon sens. C'est ce côté extraordinaire qui est que on voit Marie-Jo Perret qui trace et le commentateur qui a plus de voix en train de s'étouffer, en train de voir la performance sous ses yeux. Et c'est vrai qu'il faut être là sur le moment. En revanche, le résumé, comme ça pourrait te dire le résumé du match de foot pour voir ce que ça a donné ce soir à la France et le match et le but qu'ils ont marqué sans le marquer, eh ben ça peut être intéressant d'avoir quand même ce principe là de quasiment instantané par une voix automatique, mais qui est assumée par le commentateur.
Eh bien, nous on vous proposera le résumé du débrief de la tech, justement. Ça vous l'aurez évidemment, et pas avec de l'IA, ce sera bien nous. Vous pouvez retrouver bien entendu tout ça en replay et sur Tech & Co. Mais le débrief n'est pas complètement terminé, on va marquer une courte page de pub et on se retrouve juste après. Tiens, j'aimerais bien qu'on parle de ces AirPods Apple qui va intégrer une caméra infrarouge pour 2026, enfin a priori, parce que c'est toujours un peu quelqu'un de bien informé qui navigue dans les réseaux, dans les réseaux autorisés. Et puis ce Meta qui fait le teasing de ses futures lunettes holographiques. C'est tout de suite, et juste après on aura le Tech Flash, la chronique Tech & Co, et puis on, bien entendu, notre start-up du soir MWM qui vient de racheter Sweep l'américain. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.